Avant de trouver ma place dans l'engagement avec mes différents projets, une question m'obstinait. Comment faire de mon métier un vecteur de transition sociétale? Comment avoir un impact et faire ma part au quotidien? Si vous écoutez Nouvel Oeil, vous vous posez certainement aussi ces questions-là. Et si j'ai choisi la Green Management School pour soutenir mon podcast, c'est parce que ça peut réellement vous aider à vous y retrouver. Se former au métier de la transition écologique, ce n'était pas si accessible il y a quelques années, mais ça l'est aujourd'hui. Ça l'est tellement que l'on ne sait plus qui croire, quelle formation entreprendre, ni ce que ça vaut. Alors j'ai fait les recherches pour vous, et j'ai trouvé l'école que j'aurais tant aimé faire il y a quelques années, quand j'étais paumée. Des cours approfondis sur le climat, la biodiversité, l'agronomie, la géopolitique, mais aussi sur les modèles économiques vertueux. Le tout dispensé par des spécialistes et des personnalités inspirantes. Créer un autre lendemain que celui qui s'annonce, c'est leur mantra. Et derrière cette idée, la mission de Green Management School est de former de nouveaux managers capables de transformer les entreprises et les organisations de l'intérieur. Toutes les informations sont en description. Merci à Green Management School de croire en Nouvel Oeil en soutenant cette saison de podcast. Tout de suite, place à un nouvel épisode. Hello, je suis Victoria et j'ai 24 ans. Chaque semaine, j'embarque mon micro jeune et je pars à la rencontre de personnes inspirantes pour poser mes questions sur ce qui fait nos vies, dans un monde où l'on se cherche et où on questionne notre avenir. J'espère qu'écouter le parcours et les conseils de ces personnes qui ont rêvé et osé faire de leur rêve une réalité t'aidera toi aussi à avancer d'un pied plus sûr dans la vie. Alors je t'invite à emprunter un nouvel œil pour regarder le monde sous un autre angle. Pour te recentrer sur ce qui est essentiel et sur qui tu es, pour t'aider à trouver ton chemin et surtout, à oser.
Non, on n'est pas nécessairement fait pour passer toute sa vie avec la même personne, même si c'est ce qu'on pourrait souhaiter aussi, parce que c'est sans doute un chemin très intéressant à emprunter. Il faut se demander en fait à quel âge on rencontre les gens, parce qu'il y a aussi ça, c'est qu'on a tout un chemin à faire. Quand vous comprenez le fonctionnement de votre cerveau, vous apercevez que la plupart des choses que vous les faites en pilote automatique.
Il y a l'amour, les peurs de leur contrôle qu'ils cachent, la mise à nu de notre vulnérabilité, l'attachement que l'on repousse autant que l'on peut. Si on est parfois pudique face à lui, l'amour est pourtant inévitable et incontrôlable. Plus jeune, je me laissais balloter par mes ressentis, mes émotions, me disant que les attirances étaient de toute façon inexplicables et qu'elles ne pouvaient pas se prédire. Je connaissais très peu le sujet de l'amour, avant de le creuser pour rencontrer Stéphanie Briand. Avec elle, j'ai compris que tout ce schmilblick était aussi une affaire de cerveau, d'énergie, de système nerveux et de construction mentale. Outre les « je t'aime, moi non plus », l'amour serait avant tout une énergie indispensable à notre équilibre et à notre santé mentale et physique. Des études scientifiques ont montré que, grâce à l'énergie de l'amour, il était même possible de transformer l'ADN, de modifier le fonctionnement du corps humain, voire même de guérir des maladies. Alors quels sont nos liens d'attachement? Y a-t-il différents états de l'amour? Peut-on prédire nos attirances? Stéphanie Briand dit que dans la vie, il n'y a que deux choix, l'amour ou la peur. Dans cet épisode avec elle, on parle d'attachement, de respiration et d'amour. J'espère que cette écoute te donnera l'impulsion pour choisir l'amour face à la peur. Bonjour Stéphanie Briand.
Bonjour.
Je suis très heureuse de te tendre mon micro jeune au Rocher de Palmer à l'occasion du congrès Innovation et Éducation, organisé notamment par Julien Perron. On te présente souvent comme journaliste et réalisatrice, ce que tu es, mais pas que, tu consacres surtout ton travail aux thématiques liées à la libération du potentiel humain. Tu as publié en octobre dernier ton troisième livre, « L'incroyable pouvoir de l'amour », qui analyse les fonctionnements et les raisons du cœur. Alors aujourd'hui, on va tenter de comprendre avec toi notre rapport à l'amour et à l'attachement. À 12 ans déjà, tu étais passionnée par l'être humain. Alors quelle petite fille tu étais, Stéphanie ?
Ma grand-mère dirait que j'étais fantasque.
Ok.
J'étais une petite fille très curieuse, assez pleine de vie, j'aimais bien expérimenter des choses, je rêvais déjà beaucoup. Je pense que j'étais une petite fille agréable à fréquenter.
Tu as fait des études journalistiques à l'EFAP pour devenir donc journaliste d'investigation. Et tu as notamment travaillé pour France 5, Canal+, France 24, TV5 Monde, jusqu'au jour où tu as eu besoin de davantage de sens. Alors à 20 ans, comment tu te projetais dans cette fameuse vie des grands ?
Bah, j'ai été propulsée assez vite dans la vie des grands puisque j'ai travaillé très jeune et j'avais des responsabilités très jeunes aussi. Donc, je voyais pas les choses comme vie des grands ou pas. En revanche, ça m'importait de faire un métier, d'avoir des activités qui m'animaient, d'aller au bout de mes rêves. Donc, moi, initialement, j'avais envie de faire de la télévision. Ça, c'était quelque chose qui me portait depuis quelques années. Je pense que j'ai eu envie de faire de la télévision quand j'avais 18 ans. Hein. C'était pas non plus...
Qu'est-ce qui t'a attiré à ça?
C'est difficile de le dire parce que je pense, a posteriori, quand je vois comment je fonctionnais quand j'étais enfant, je réalisais déjà des films. J'imaginais des scènes, j'organisais des choses avec mes frères et sœurs pour organiser les championnats de ping-pong internationaux. Je filmais la cabine téléphonique en créant des dialogues. Donc, je pense que ce monde de l'image, il était déjà là, déjà très présent, mais j'en étais pas consciente. Donc, la télé, c'était pour moi la représentation de l'image. J'ai pas été tellement élevée dans la culture du cinéma. Et puis aussi, quand j'étais petite fille, j'avais envie d'être chorégraphe. Et la chorégraphie, la dernière fois, j'entendais Benjamin Millepied dire ça, qui est donc chorégraphe, qui a réalisé son premier film. Il disait, mais c'est très proche la réalisation et la chorégraphie parce que c'est de la mise en scène des corps dans le mouvement, dans l'espace. Donc a posteriori, je me dis, bah oui, tout était lié, était déjà la télé réunissait pour moi sans doute cette image d'humain, d'image, et ça me semblait naturel.
Et donc en 2007, tu t'es éloignée de la télé, mais tu es restée proche de l'image en créant finalement ta propre société de production pour produire des programmes liés au développement du potentiel humain. Qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir mieux comprendre les blocages qui empêchent l'épanouissement de l'être humain?
Eh bien, parce que j'ai vu beaucoup de gens patauger dans la semoule autour de moi et que moi-même, j'ai toujours besoin d'aller comprendre comment me sortir de situations qui peuvent avoir une image négative pour les transformer de façon positive. Moi, je m'intéresse beaucoup au chemin et pas tellement finalement aux événements les uns dissociés des autres. Donc c'est pour ça que je garde beaucoup d'enthousiasme, c'est-à-dire que même s'il y a des moments qui sont difficiles, bah ça fait partie du chemin et j'ai pas de finalité en soi, il y a pas tiens, c'est ça que je veux accomplir à tout prix. Non, en revanche, j'ai besoin de réaliser plusieurs accomplissements sur le chemin et à chaque fois d'être contente et de continuer et d'avancer. Mais je crois qu'on est dans une société qui manque aussi beaucoup de sens, donc il y a une vraie quête et que j'ai la faculté de mettre en lien des choses que d'autres ne font pas et que ça ouvre des fenêtres dans les esprits des êtres. Donc je pense qu'on a tous une espèce de vocation. Rares sont ceux qui pensent pouvoir la trouver parce qu'il y a un conditionnement aussi qui fait que ben, souvent on se dit ben non. J'ai pas de vocation, mais la vocation, elle est pas nécessairement dans le métier. Hein. Sa vocation, ça peut être d'être une super mère de famille,
tout le monde
de
en a
très
eu.
Bien s'occuper de ses parents, de s'occuper d'un village. Enfin voilà, ça peut être plein de choses différentes.
Comment on la trouve cette vocation?
Bah déjà, faut la laisser frapper à la porte, faut créer de l'espace, donc pas avoir des vies trop occupées, c'est comme tout. Et puis, faut savoir suivre son cœur, parce que je pense que la vocation, elle est quand même très liée au cœur. Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous fait sentir en vie? Aimer la vie, justement, souvent c'est lié à votre vocation. On a tous, si on devait se décrire quelque chose qui ressemble un peu à une mission, tu me racontais ton fonctionnement et que tu te disais que ton travail avait de l'impact et donnait de l'écho plus large. Ben voilà, moi je me dis que ma mission de vie, c'est de ranimer les flammes qui parfois sont un peu éteintes chez les êtres et c'est ce que je fais. C'est ce que j'aime faire, c'est ce qui m'importe, parce que pour moi, dans tout ce travail, ce qui est le plus important, c'est les retours que j'en ai. Donc quelqu'un qui me dit ben, merci parce que votre livre a transformé ma vie, ou cette compréhension, ou quand je vois votre sourire, parce que souvent on me dit ça, ah ça me fait du bien de vous regarder, ben oui, alors je continue à sourire aussi parce que moi je suis contente de pouvoir faire du bien.
C'est un booster.
Ben oui. Donc oui, on a tous une vocation, il faut pas avoir peur de la trouver et qu'elle ne corresponde pas à ce que peut-être notre ego a imaginé.
Ou notre entourage a imaginé pour nous aussi. Avant de faire des recherches sur l'amour, tu as d'abord étudié notre cerveau en réalisant ton premier documentaire, Le cerveau des enfants, un potentiel infini. Puis tu as enquêté pendant 2 ans sur le souffle et la respiration. Alors en quoi maîtriser notre souffle peut finalement avoir un impact sur notre vie?
Parce que quand on maîtrise sa respiration, on prend un peu plus les commandes de sa vie.
Ouais.
Et surtout, quand vous comprenez le fonctionnement de votre cerveau, vous apercevez que la plupart des choses que vous les faites en pilote automatique. Mmh. Que le libre arbitre, ça n'existe quasiment pas. Donc, comment faire pour justement devenir moins prévisible, pour vous départir des conditionnements qu'on a depuis l'enfance, des mécanismes de notre cerveau, notre façon de voir le monde qui est vraiment teintée de ce qu'on a engrammé au fur et à mesure? Eh bien, pour ça, il y a la respiration, parce que la respiration, c'est le langage du corps. C'est comme une télécommande vers le cerveau et le système nerveux. Et quand on apprend à faire marcher cette télécommande, sur quel bouton appuyer pour obtenir quel résultat, on se dit « waouh ». Donc moi, ça m'a fascinée pour ces différents usages et on n'y connaît rien. C'est-à-dire que c'est quand même, tout le monde respire.
Oui.
Beaucoup de gens se disent « bah, je ne vais pas apprendre à respirer, je respire déjà ». Bah oui, vous respirez de façon automatique. Mais imaginez que vous pouvez enlever la fonction automatique et passer en manuel. Quand on est dans un avion, c'est quoi le plus intéressant, de savoir piloter l'avion en pilote automatique ou savoir le piloter manuellement? Et ben là, c'est pareil. Donc, si vous ne connaissez que la fonction automatique, dites-vous que vous n'êtes pas pilote à bord. Du tout.
Et alors, comment on apprend à reprendre le contrôle de notre respiration?
Déjà, en comprenant comment fonctionne notre système nerveux, en saisissant aussi, nous, notre intime, ce que notre signature respiratoire veut dire, comprendre la mécanique de la respiration, ce qui est un aspect vraiment mécanique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on respire correctement, ou dans quelle posture.
Et notamment le nerf vague, je crois qu'il rattache l'intestin au cerveau.
Oui, le nerf vague, il est très activé par la respiration, en effet. Et le nerf vague, il est indispensable pour notre bien-être mental et physique. La digestion, elle dépend du nerf vague. L'immunité, elle va dépendre du nerf vague. Le fonctionnement des poumons et l'amour aussi. Donc, c'est essentiel pour même le bon fonctionnement de notre corps. Moi, je vois l'être humain vraiment de façon holistique, comme un tout. C'est-à-dire que votre corps, c'est important qu'il soit harmonieux et en santé, pour que votre mental soit harmonieux et en santé, pour pouvoir avoir des idées créatives et avoir l'énergie de les réaliser. Si on n'a pas cette espèce de...
Symbiose.
Oui, symbiose et surtout cercle vertueux. Voilà, tout se nourrit. Eh bien, on est dans une espèce de déséquilibre. Et quand on est dans le déséquilibre, ben, on en souffre beaucoup. Et la vie, c'est pas que d'être dans l'équilibre. Hein. C'est juste de, quand on est déséquilibré, arriver à revenir à l'équilibre sans trop de problèmes. Mais c'est comme la marche. La marche, le principe de la marche, c'est le déséquilibre. S'il n'y a pas de déséquilibre, vous n'avancez pas. On en a besoin. En revanche, si vous déséquilibrez trop, vous vous cassez la gueule. Et ça, on n'en a pas besoin.
Oui.
Bah, si, on en a besoin parce qu'on y apprend quelque chose et qu'on va se relever derrière. Mais si on peut éviter de se casser la gueule, la marche est quand même nettement plus agréable.
Alors, cet incroyable pouvoir du souffle, tu en as fait un livre tout entier. Donc, je vais pas centrer l'interview sur le souffle, mais plus sur l'amour.
Dont j'ai fait un livre entier.
Dont tu as fait un livre entier aussi, qui est sorti en octobre dernier. Donc, le dernier livre, ton troisième. Donc, on y vient. Est-ce que le souffle et l'amour sont liés?
Alors, pour moi, ils étaient liés parce que j'ai trouvé que grâce à la pratique de la respiration, j'avais créé l'espace pour mieux comprendre l'amour, ce que l'amour provoquait en moi, pour... ne plus basculer dans la peur. Parce que, à mon sens, il y a deux éléments. Il y a la peur d'un côté et l'amour de l'autre. Et quand, justement, il n'y a pas d'espace, quand on est dans des vies où il n'y a pas beaucoup de respiration, on est beaucoup dans la peur. Donc, on ne peut pas accueillir l'amour. C'est pas possible.
Et peur de quoi, par exemple?
Peur de tout. Les difficultés que vous rencontrez dans la vie, vous y réagissez par la peur. Pour moi, dès qu'on fait un choix, en fait, on choisit ou entre l'amour ou entre la peur. Donc, c'est ou l'un ou l'autre. Donc, vous choisissez un boulot, par exemple. Est-ce que c'est l'amour qui vous guide ou est-ce que c'est la peur? La peur, ça va être, oui, non, mais si je prends pas ce boulot, peut-être que j'aurai plus d'opportunités aussi bien. Si je prends pas boulot, comment je vais faire pour payer mon loyer? Si je prends pas boulot, voilà. Et ça, c'est la peur. Jamais c'est le cœur qui dirige dans ces moments-là. Donc, dès qu'on laisse la peur prendre les commandes dans nos vies, si je suis avec cette personne, oui, mais sinon, je serais toute seule. Oui, mais voilà. Et donc, dès qu'il y a du oui, mais c'est de la peur. Et ça nous fait pas du bien. Il faut savoir prendre des risques. Alors, évidemment, mesurer. Il faut pas non plus aller se jeter dans le précipice. C'est pas l'idée. Mais simplement voir que la peur n'est pas aux commandes. Se dire, par exemple, je prends ce boulot pendant 6 mois parce que pour l'instant, je n'ai pas d'autre option pour payer mon loyer. Mais je prépare les 6 mois d'après. C'est pas du tout la même chose. On se place pas dans une position de victime. On se place pas dans une position de peur. C'est pas toujours la perfection d'être dans l'amour. C'est pas toujours l'idéal. En revanche, c'est juste d'être ouvert à ce qu'il y a de mieux pour nous et pas de dire, oh, on va se réduire. La peur, c'est la réduction.
Qu'est-ce qui t'a aidé, toi, à te libérer de ces peurs? Tu en as eu quand tu étais jeune?
Ah ben j'en ai toujours, la peur elle fait partie de la vie. En revanche maintenant j'arrive beaucoup plus facilement à la mettre à distance. Dans le livre j'ai une phrase où je dis c'est important de faire une chambre pour la peur dans la maison parce que sinon elle va occuper tout l'espace. Et oui, elle va prendre d'assaut toute la maison la peur si on lui laisse pas sa place, qu'on l'accepte pas. Elle fait partie de nous, c'est comme l'ombre et la lumière, on a toujours une ombre. Bah, faut savoir la regarder, savoir qu'elle est là, mais en revanche c'est pas elle qui va grossir et puis qui va nous éloigner de... Donc j'en ai toujours, mais maintenant, je sais les voir et les reconnaître. Déjà, c'est ça aussi.
Et tu sais laisser plus de place pour l'amour aussi.
Je fais, oui, à chaque fois le choix de l'amour. Parce que je sais aussi quand je fais le choix de la peur, en général, il m'arrive une bricole.
Et pour toi, l'amour, ça n'est pas un sentiment, mais une énergie qui réagit comme la matière. Tu définis d'ailleurs 4 états de l'amour, le gazeux, le solide, le plasma et le liquide. Est-ce que tu peux brièvement nous les présenter, ces 4 états?
Quand j'ai voulu mieux comprendre l'amour, je me suis dit, bon, très bien, pour l'instant, on parle de l'amour filial, l'amour amoureux, l'amour universel. Oui, mais il y avait un truc pour moi qui sonnait pas parce que c'était très lié à la morale.
Oui.
Donc, ok, il faut aimer son enfant de façon filiale. Il faut surtout pas que ce soit comme amoureux. D'accord, mais ça, au fond, dans ce qu'on ressent vraiment, est-ce que c'est juste ou est-ce que c'est pas juste? Alors après, je me suis mise à regarder les choses d'un point de vue du cerveau. Et dans le cerveau, ben, on voit que justement, quand on tombe follement amoureux ou quand on accueille un bébé ou qu'on sait prendre un leader politique, ou il se passe la même chose. Donc, dans notre réaction dans le corps humain, c'est pour ça que je dis que c'est une énergie. En fait, l'amour, ça nous traverse et ça crée des réactions en nous. Et en fonction de notre passé, de notre histoire de vie, on n'a pas les mêmes réactions. Et donc, plutôt que de concevoir par la moralité, je me suis dit, est-ce qu'on le verrait pas plutôt parce que ça transforme notre état? L'amour nous met dans tous nos états. Donc, il y a l'état gazeux. L'état gazeux, c'est l'état de très grand amoureux.
Donc, le début.
Le début, ou en tout cas, ces moments où ça nous fait décoller de nos chaussures, là, où ça nous emporte, où on se contient plus à l'intérieur de nous, un gaz. On voit que les molécules, elles sont pas liées entre elles, hein, elles sont un peu partout, il y a beaucoup d'espace, et voilà. Et ça va très vite. Et puis, c'est aussi lié à la dopamine. Donc, c'est l'hormone de la potentialité qui nous fait vivre un peu
du
dans
bonheur.
Le futur. Voilà. Donc, ça nous place dans « Waouh ! Tout ce qui peut se passer avec cet amour, tous les champs
tout
que ça ouvre
possible.
Et tout, c'est génial, ça m'embarque !» Ensuite, il y a l'état solide.
Oui.
L'état solide, c'est plutôt les états d'attachement. C'est des états où, bon ben, le lien est là, il est sécure, mais il n'y a plus de place, justement, pour les molécules pour bouger. Donc, elles sont collées les unes aux autres.
C'est l'ancrage.
C'est l'ancrage et pas seulement, c'est vraiment l'attachement dans la relation. Donc, vous avez ça dans vos familles, dans votre famille, ben, vous êtes une certaine personne, vous avez des sentiments pour autrui qui évoluent pas beaucoup, qui peuvent parfois être teintés de ressentiment. On vit beaucoup dans le passé, c'est construit par le passé, mais en même temps, c'est aussi lié avec l'hormone de l'ocytocine qui est l'hormone de l'attachement. On en a besoin pour créer du lien entre les êtres, pour se sentir en sécurité avec les autres. L'état plasma, c'est plutôt quand on est on a un accès à un amour plus grand que soi, qu'on sent l'amour universel, qu'on se sent connecté à la nature, qu'on se sent animé par une communauté très large. Voilà, c'est lié à notre spiritualité, mais pas que la spiritualité au sens du religieux. Pour moi, la spiritualité, c'est le sens. À partir du moment où vous avez un sens à votre vie, il y a une espèce de force supérieure qui vous pousse. Bon, bah voilà, ça, c'est du plasma. Et enfin, l'état liquide, qui pour moi est l'état souhaitable, qui est un mélange du gazeux excitant, du solide, où on est sûr dans la sécurité, et du plasma, du sens, qui va nous faire aller encore plus loin. Et quand tout est réuni, eh ben ça coule, l'amour coule, et l'amour reste.
Est-ce qu'on peut arriver à l'état liquide en premier, ou est-ce qu'on est inévitablement obligé de passer par le gazeux, le solide, le plasma, puis enfin l'état liquide?
Pour moi, on fait des incursions un peu à droite, à gauche. Mais si on est trop dans le gazeux, hop, qu'est-ce qu'on rajoute pour repasser dans le liquide? Si on est trop dans le gazé, on va peut-être avoir besoin
c'est
de mettre un peu de solide. Voilà, c'est exactement ça. Donc, il y a peu de gens qui restent... C'est comme la santé. Encore une fois, il ne faut pas toujours être dans l'état liquide. En revanche, c'est quand on en sort, hop, si on bascule un peu trop dans le solide, qu'est-ce qu'on fait pour aller dissoudre ça? Et de se dire à chaque fois, je peux rééquilibrer, on ne se dit plus, il y a de l'amour ou il n'y a pas d'amour. C'est pas la même chose. Il y a un déséquilibre qui fait que le liquide amour ne traverse plus. Donc, ok, est-ce qu'il faut dégeler ou au contraire, est-ce que c'est beaucoup trop chaud et que ça brûle et qu'il faut faire baisser en température? Enfin voilà, c'est une façon, à mon sens aussi, de concevoir l'amour qui est beaucoup plus claire et qui fait moins peur.
Ouais.
Parce que on est tellement en quête d'amour, alors que là, il n'y a plus d'histoire de quête. C'est que c'est toujours là. Ouais. C'est à vous d'être le petit alchimiste, en fait, pour faire que ça perdure.
Et justement, pour arriver à être un bon alchimiste et à toucher le parfait dosage, est-ce que les types d'attachements ont un lien à ça ? Tu as défini différents types d'attachements en fonction de ces attachements. On va vivre différentes histoires d'amour. Il y a notamment les attachements sécures, je crois 50% de la population. Mmh. Et après, il y a trois types d'attachements insécures, donc 50 autres %, parmi lesquels il y a les anxieux, les évitants et les désorganisés. Comment tu les expliques, ces différents types d'attachements ?
Alors, les attachements, ils ont été découverts dans les années 50 par un psychiatre qui s'appelle John Bowlby. Et oui, ils vont conditionner notre rapport au monde et à la relation. C'est ce qu'on projette sur la relation. Donc, notre attachement, il est créé dans l'enfance, dans le lien qu'on a avec les parents ou les personnes qui s'occupent le plus de nous. Et ce que je veux expliquer surtout, c'est qu'en fait, pour réussir à vivre l'amour pleinement, il faut devenir un expert de la relation. Donc, pour devenir un expert de la relation, il faut comprendre soi comment on fonctionne. Pour comprendre comment on fonctionne soi, il faut aussi identifier que nos comportements, ils sont liés avec un certain fonctionnement de notre système nerveux. On réagit aux choses.
En pilote automatique, encore une fois.
En pilote automatique, et on a vraiment des réactions. Et les réactions et nos comportements, ils sont connectés directement à nos attachements. Moi, quand j'ai découvert les attachements, je me suis dit, « Oh mais non, c'est pas possible. » En fait, moi qui croyais que je pensais de telle façon, que c'était original, que c'était moi, que c'était... là, pas du tout. Je pense comme tous les gens qui ont mon attachement. Alors, on va pas être aussi simpliste, mais il y a des grandes lignes. Et quand on voit à quel attachement on appartient le plus, on se dit mais oui, c'est vrai.
Est-ce que dans les grandes lignes, tu peux nous les présenter, ces différents types d'attachements, pour ceux qui nous écoutent puissent se reconnaître ou pas ?
Absolument. Donc, on va commencer par l'attachement anxieux. Donc, ouais. L'attachement anxieux, c'est un attachement où on n'a jamais assez d'intimité. En fait, on est toujours en quête de se rapprocher de l'autre. On se sent jamais suffisamment proche de lui. On est très anxieux, justement. Et notre objectif, c'est d'être sûr que l'autre est là pour nous, qu'on n'est pas non plus trop un poids à porter, parce que souvent, on a beaucoup de culpabilité, on se sent pas à la hauteur, donc on a l'impression que voilà, on est vraiment une espèce de poids pour la personne qui nous accompagne. Donc on va aussi se faire plein de films dans la tête, catastrophe de ce qui peut se passer, ce qu'il peut penser, est-ce que cette personne s'éloigne à ce moment-là. Et on est aussi très empreint de crise, c'est-à-dire que on va provoquer des disputes, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on cherche ? C'est de se rapprocher de l'autre, mais comme on n'arrive pas à le faire parce qu'on est trop anxieux, créer la dispute fait que l'autre, eh ben, il va revenir vers nous. Sauf que sur le long terme, évidemment, c'est l'inverse qui va se produire. Surtout si on connaît pas les attachements. Si on les connaît, après on peut sécuriser les gens, et donc là c'est différent. Mais donc les anxieux sont voilà très dans le conflit. Ils vont beaucoup faire des scènes. Ça peut être difficile de vivre avec des anxieux, et ce sentiment en permanence que la relation c'est jamais assez, quoi. On n'est jamais satisfait. Les évitants, c'est l'inverse. Donc l'évitant, lui, il a peur de l'intimité et il la fuit à tout prix. L'évitant, souvent, c'est un être négligé qui s'ignore. C'est-à-dire qu'il se croit hyper indépendant. Il se dit « Non, mais moi, je fais cavalier seul, j'ai besoin de personne, je suis hyper autonome. » Mais en fait, c'est pas un vrai autonome. C'est un négligé qui s'est habitué comme réponse à l'autonomie. Donc pendant l'enfance, souvent, ses parents, ils favorisaient plutôt le monde extérieur. C'était le quand dira-t-on, donc il fallait avoir des comportements de telle ou telle façon. L'amour était un peu conditionnel. Et l'évitant, il s'est illusionné en se disant « Non, mais moi, j'ai besoin de personne pour y arriver dans la vie et je me débrouille et je m'auto... » voilà. Et quand on est dans une vie amoureuse avec un évitant, que se passe-t-il ? L'évitant, dès que vous lui demandez de s'engager, il veut pas, il peut pas. Non. Mais parce qu'en fait, il a peur. Il a peur d'être blessé. Il a peur de s'ouvrir. Il a peur d'être en lien avec vous. Parce que là, ça va devenir dangereux pour lui. Donc lui, il a l'impression que c'est pas parce qu'il a peur. Il a l'impression que c'est parce qu'il respirerait pas s'il le faisait. Donc il a toujours un pied dehors, un pied dedans. Souvent, l'évitant, il est un peu les yeux ouverts en permanence. Donc la personne avec qui il est, ok, mais ça peut être quelqu'un d'autre. Et il y a peut-être un prince charmant ou une princesse charmante quelque part pour cette grande histoire merveilleuse qui m'attend, ou un ex fantôme auquel on pense tout le temps.
Il y a toujours une possibilité à côté.
Exactement, c'est la fuite un peu en permanence. L'évitant, il supporte pas le conflit. Et donc s'il y a un conflit, il va tout faire pour l'éviter en fait, parce que il n'arrive pas à le gérer. Il sait pas comment faire dans ces situations de crise là. Mais comme l'anxieux, il est anxieux quelque part au fond, sauf que ça s'exprime pas de la même façon. Mais parfois, quand les évitants rencontrent d'autres évitants, ils peuvent basculer anxieux. On voit qu'on peut aller aux deux extrêmes. Ça peut changer en fonction de qui vous avez face à vous. Et parfois, on a des attachements dormants aussi. Et donc, on a compensé avec un autre attachement et il ressort parce qu'on vit justement un grand sentiment d'amour. Et là, ça fait tout voler en éclats et on voit un attachement qu'on n'avait jamais vu jusque-là.
Est-ce que les anxieux attirent les évitants et vice-versa? Bah,
les anxieux sont très attirés par les évitants, ouais, parce qu'ils veulent avoir mal, quoi. Ça appuie là où ça fait mal.
C'est fou quand même, on est attiré par ce qui nous fait mal, quoi.
Alors après, il y a ce que j'appelle les amours trauma, comprendre pourquoi on va vers des amours qui ne nous satisfont pas.
C'est pour ça qu'il y a aussi souvent les mêmes schémas qui se répètent.
Oui. Exactement, parce qu'on va aller chercher à revivre en fait en permanence quelque chose qu'on connaît bien, parce que notre cerveau, il veut le confort. Le confort, ça veut dire quoi? Ça veut dire ce qu'il connaît, pas ce qui nous fait du bien. Donc naturellement, on va être amené à aller toujours rejouer un peu la même blessure narcissique aussi. C'est important de comprendre le rapport au narcissisme, c'est essentiel dans l'amour. Mais pour poursuivre sur les attachements, il y a l'attachement aussi désorganisé qui lui est un attachement qui est lié souvent au traumatisme. Donc le désorganisé, c'est « je t'aime mais je te déteste ». Donc il y a des moments qui vont être follement fusionnels et puis il va vous faire un truc dégueulasse, une grande trahison, quelque chose de terrible, parce que pour lui, l'amour est aussi un énorme danger. Donc comme dans son enfance, il a été trahi par un parent qui avait normalement la représentation de la sécurité, mais qui par ailleurs lui faisait du mal. Donc ça peut être un parent qui est violent, ça peut être les maltraitances. On voit que les attachements désorganisés sont beaucoup nés de ça. Donc dans la vie amoureuse, on a ça. C'est je t'aime, mais je te fais du mal, je te blesse et je sais pas faire autrement en fait.
C'est un peu un mix de l'anxieux et de l'évitant.
Sauf qu'il y a quand même cette notion de vraie violence. C'est-à-dire que la violence, elle est plus larvée chez l'anxieux et l'évitant, parce que oui, c'est de la violence de piquer des colères, de créer des crises, de l'évitant de se barrer, c'est aussi de la violence. Mais chez le désorganisé, ça va vraiment être des trucs waouh, quoi. Vous attendiez pas à ça, quoi. C'est de se partir avec le compte en banque, c'est la tromperie à répétition, alors que jurer sur l'honneur, il y avait absolument rien. C'est de la dissimulation de choses. Vous avez confiance en quelqu'un et en fait cette personne, vous vous apercevez que c'est pas du tout qui vous pensiez qu'elle était. Alors que l'évitant et l'anxieux, c'est pas ça.
Oui. Et après, il y a quand même 50% de la population qui elle, a un attachement sécure. Est-ce qu'on peut devenir sécure quand on est insécure?
Ouais.
Si on travaille sur
déjà,
ça.
Déjà, pour définir le sécure, c'est important de parler justement de ce que c'est, parce que pour tendre vers un attachement sécure, il faut savoir ce que c'est un attachement sécure. Mm-hmm. Un attachement sécure, c'est quelqu'un qui dit, je peux être avec toi, mais je peux être aussi avec toi, ou avec toi, ou avec toi, ou avec toi. Il n'y a pas une personne qui est faite pour lui. Il y en a plusieurs qui sont potentiellement compatibles. Donc, il fait un choix de relation. Et une fois qu'il est dans ce choix de relation, il va mettre son énergie pour que ça marche. Parce qu'ils se disent pas que ça sera mieux ailleurs.
Ah, ok.
Il y a aussi le fait que le conflit pour lui n'est absolument pas un problème. On a un désaccord, on en parle. Ok, on met les choses sur la table. Et c'est pas une menace pour la relation, jamais. Alors que pour les trois autres attachements, le conflit est toujours une menace pour la relation. On peut faire du chantage un peu. Oui, non, bah c'est comme ça, je te quitte. Le sécure, quand vous disputez dans la relation avec un sécure, jamais il parlera de séparation. Jamais il mettra la relation dans la balance. Donc vous êtes en sécurité. Vous pouvez vous disputer tranquillement sans vous inquiéter que ne plus avoir cette personne avec vous. Et puis le sécure, c'est aussi quelqu'un qui il est pas dans son émotionnel comme va l'être l'anxieux, où sa vie émotionnelle en fait elle le bouffe, elle trop quoi, ça prend toute la place. Non, il a un rapport à l'émotionnel assez calme.
Et tu dis que l'homme a besoin de tomber amoureux pour s'attacher, alors que la femme pas forcément.
Oui, alors ça c'est d'un point de vue des hormones, parce que je décris en effet tout ce qui se passe au niveau des hormones, au niveau du cerveau, des neurotransmetteurs, et l'homme, s'il n'y a pas un préalable en fait amoureux, la chimie se met pas en route, notamment la chimie de l'attachement, qui est très liée aux orgasmes, c'est-à-dire que les hommes vont s'attacher avec l'orgasme. À ce moment-là, le niveau d'ocytocine, qui est l'hormone de l'attachement, il augmente de 500%.
Et pas la femme.
Il augmente aussi, si, bien sûr. Mais la femme, elle a moins besoin de ce préalable.
Ok.
Parce que la femme, elle va avoir un attachement, c'est moins important de s'ouvrir à ça que pour l'homme. Voilà. La femme, elle peut très bien tomber amoureuse d'un homme avec qui elle a des relations sexuelles alors qu'au départ, il n'y avait rien.
Ouais.
Alors que l'homme, ce sera plus difficile.
D'accord. Ok. Voilà.
Mais la femme, en revanche, oui, elle va avoir de l'attachement immédiat. Donc, réfléchissez avec qui vous avez des relations sexuelles. Vous risqueriez bien de tomber amoureux de cette personne.
Est-ce que la tendance à penser que quand on est seul, on est incomplet, c'est caractéristique des profils anxieux?
Oui, ça, c'est plus caractéristique des profils anxieux, mais c'est aussi quelque part un peu chez l'évitant, parce que l'évitant, même s'il se croit complet et autonome, il sait qu'il y a un truc qui lui manque. C'est comme s'il avait au fond de lui une espèce de nostalgie, vous voyez ?
Il se ment lui-même un peu.
Un peu. Donc il se dit, il n'est pas complètement plein, il le sait, il ne le voit pas de la même façon que l'anxieux.
Ouais.
Chez l'anxieux, c'est un aveu d'échec, alors que chez l'évitant, ça va plutôt être de se dire, c'est la bonne raison de son évitement.
En préparant notre entretien, j'ai appris que nous étions neurochimiquement programmés. Il y a Hélène Fischer qui a notamment déterminé des profils neurobiologiques de l'amour. Alors, est-ce qu'on peut prédire l'attirance ?
A priori, oui.
C'est incroyable, ça.
Ouais, c'est fou, hein. C'est que, oui. Et moi, je crois une chose, parce que comme on parle à ton public qui est assez jeune, je pense que les contraceptifs jouent beaucoup sur les attirances pour les jeunes femmes, parce qu'en fait, comme ça va modifier les taux d'estrogène, on ne va peut-être pas être attiré par les mêmes personnes. Parce que c'est beaucoup dépendant de ça, des estrogènes, de la testostérone, notamment. Et puis après, il y a dans les modes de vie, il y a donc les êtres qui sont plus dopamine, qui sont plus... il faut que la vie ce soit funky, on prend des risques, on a besoin que de ressentir beaucoup, beaucoup de choses. Et il y a des êtres qui sont plus sérotonine. Alors eux, au contraire, ils ont besoin d'être davantage ancrés, ils peuvent vivre dans la même ville toute leur vie. Et c'est des profils neurochimiques qui, en général, ne s'attirent pas parce qu'en fait, ils ne se comprennent pas. Ils n'ont pas du tout les mêmes besoins. Et donc, on se dirige vers certaines personnes parce que neurochimiquement, ils sont similaires à nous. Ou aussi, c'est intéressant de comprendre cette neurochimie-là. C'est-à-dire que on peut créer les activités ou les conditions de vie pour répondre à nos besoins du cerveau. Parce que c'est vraiment des besoins que notre cerveau a à assouvir.
Donc, ces besoins, ils peuvent évoluer avec le temps. Neurochimiquement, on peut un petit peu transformer aussi nos attirances.
Oui, on peut. Il y a des choses où on peut évoluer, mais je pense surtout qu'on peut équilibrer. Ouais. Voilà. Donc, le besoin qu'on a, par exemple, quand on a beaucoup besoin de dopamine, et ben, ça peut être des êtres qui sont les évitants, par exemple, qui tombent amoureux très souvent parce qu'ils en ont besoin. C'est un petit shoot à chaque fois pour eux, quelque part. Il y a une espèce de forme d'addiction aussi à l'amour, hein, parce que c'est équivalent d'une drogue dure.
Les amoureux de l'amour.
Donc, quand on sait qu'on va avoir besoin de ce shoot-là, eh ben, plutôt que de le trouver à travers la relation amoureuse, on peut aller le prendre ailleurs. C'est comme les addicts, en fait, il ne faut pas se dire qu'on va se débarrasser du comportement addict, mais qu'est-ce qu'on choisit comme addiction qui aille dans le bon sens plutôt que de nous détruire.
Alors, si nos besoins physiologiques évoluent avec le temps, est-ce qu'on est fait pour rester toute une vie avec la même personne ?
Pas nécessairement. On est tous polygames, mais idéalement de façon successive. C'est-à-dire qu'on a plusieurs temps de monogamie. Donc non, on n'est pas nécessairement fait pour passer toute sa vie avec la même personne, même si c'est ce qu'on pourrait souhaiter aussi, parce que c'est sans doute un chemin très intéressant à emprunter. Mais faut se demander en fait à quel âge on rencontre les gens. Parce qu'il y a aussi ça, c'est qu'on a tout un chemin à faire. Quand vous avez 20 ans, quand vous n'avez pas encore eu d'enfant, il y a aussi cette chose-là, c'est que les enfants, ça va changer complètement le pacte de la relation. Je pense que les couples qui restent ensemble toute leur vie, souvent, ont eu les enfants qui sont venus assez jeunes dans leur relation.
Ok.
Parce qu'en fait, c'était déjà leur pacte de départ, un peu le pacte de la famille. Et puis après, une fois que les enfants sont grands, on se dit quoi ? Bon, ben, on change complètement le pacte ou on poursuit le pacte. Mais dans la société dans laquelle on vit, où on a déjà eu des vies souvent très riches avant d'avoir des enfants, ben, les enfants créent un tel bouleversement que parfois, c'est plus du tout le pacte initial qu'il y avait entre les deux êtres. Et on s'y retrouve plus. Donc, il y a des vrais questionnements aussi à se poser sur, quel est notre contrat familial aussi.
Est-ce que tu expliques le fait que, bah, notamment ma génération, on se met en couple de façon, entre guillemets, stable, quand même relativement plus tard que la génération de mes parents. Est-ce que tu vois des explications à ça ?
Bah, je pense que justement, on a la sensation aussi de moins avoir besoin de s'encapsuler avec quelqu'un. Donc, on a une vie comme ça, plus libre, qui a moins de réalité pratique. C'est-à-dire de se dire, bah oui, on vit sur le même toit, ou on a besoin de rencontrer quelqu'un pour quitter la maison, ou bah voilà. Mais c'est un fait des temps. Après, moi, je pense que, quoi qu'il arrive, la relation de couple est intéressante à vivre parce que c'est avec l'autre qu'on apprend beaucoup. Et aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de gens qui disent « Ben non, mais moi, je peux être seule. » Et je crois qu'on passe à côté quand même de beaucoup d'aspects, beaucoup de possibilités d'évolution si on se dit que « Ben non, on n'aura pas de couple. » Il y a plein de formes de couple différentes aujourd'hui. Mais je crois que quand on est quand même dans une relation qui se construit avec un autre être, ben c'est très très enrichissant et aussi c'est important. Ouais. Sur le long terme, c'est-à-dire que en termes de santé, on voit que ça joue beaucoup d'avoir un partenaire de vie, d'avoir quelqu'un qui est là pour nous avec un lien fort d'attachement, avec qui on a une relation riche. C'est ce qui présage de la qualité de la vie, de la longévité, de la santé, du bien-être, du bonheur, bien plus que la faillite, la maladie ou voilà. Donc, si on veut investir, je pense, c'est important d'investir dans ces relations.
Mmh, incroyable. Et donc, il y a investissement et il y a parfois aussi désinvestissement. Comment on peut se remettre d'une rupture ?
Eh bien, il faut prendre ça comme un détox. Mmh. Donc justement, si l'amour est une drogue, quand on a un chagrin d'amour, eh bien, il faut le voir comme une détox. Il faut déshabituer son cerveau. Et quand on a un chagrin d'amour, qu'est-ce qu'on fait ? On va revoir les photos, on va se replonger dans les souvenirs, écouter les musiques, mais parce qu'on en a besoin. On en a besoin parce que sur le coup, ça nous fait du bien. Mmh. C'est comme un deuil. Vous repassez à travers des moments qui ont été tellement bons et joyeux que votre cerveau, il les revit au moment où il y pense. Sauf que juste après, bam, couperait parce que vous savez que ça y est, c'est fini. Mmh. Donc, pour vous désintoxiquer, moi, je suggère à chaque fois que vous avez une pensée de faire quelque chose dans le corps qui va vous faire remarquer que vous avez cette pensée. Donc, vous pouvez vous mettre à faire des pompes, à faire 10 pompes à chaque fois que vous avez une pensée. Alors d'une part, vous allez devenir super costaud. D'autre part, vous allez un peu team up avec vous-même, c'est-à-dire que vous devenez complice de votre bien-être plutôt que d'être complice de votre malheur. Donc plutôt que de vous apitoyer, vous dites « Allez, non, action !»
Je me remets en forme.
Et l'idée, c'est pas du tout de fuir, hein, c'est de le voir et de le prendre avec une espèce plus de détachement. Et voilà, faites-le pour faire quelque chose de positif. Ou si vous devez repeindre un truc que vous voulez pas repeindre, et ben voilà, vous vous mettez à le faire. Et puis à chaque fois, vous mettez un coup de peinture en plus.
Et c'est remplacer une habitude par une autre, quoi.
Exactement. Et puis il y a un neuroscientifique aussi qui lui voit les choses dans l'autre sens. Moi, j'aime pas trop être dans la déconstruction, mais je trouve son idée intéressante. Donc je vous la soumets également. C'est de ne garder que les photos moches de votre ex, et aussi de faire la liste de tous ses défauts. Et donc, à chaque fois que vous avez une pensée, eh ben, vous regardez toutes les photos moches et vous lisez la liste des défauts. Et ça désintoxique aussi très bien. Voilà. Mais pensez, voilà, le chagrin d'amour, c'est normal. Le cerveau, il a besoin de se rattacher. Il faut le temps. Pas le temps, réellement, parce que le temps ne fait rien, c'est l'intention. Une fois que vous avez l'intention de, bah, tout se met en place.
Et ça fait partie du jeu. Stéphanie, dernière petite question du podcast, beaucoup plus large, donc tu n'es pas obligée de te rattacher à l'amour, mais quel conseil tu voudrais partager aux jeunes qui nous écoutent aujourd'hui ?
Alors, il y en a peut-être deux. Le premier, c'est suivre son cœur, même si c'est pas facile.
Oui.
Donc, suivre son cœur, c'est se faire confiance, hein, parce que parfois on se dit, moi, qu'est-ce que ça veut dire ? Et c'est d'avoir du courage. Le courage, ça vient du mot cœur. Et donc, le vrai courage, c'est justement de suivre cet élan-là. Et puis, le deuxième, c'est ne faites jamais rien que vous pourriez regretter. Et ça va dans les deux sens. Et de se poser la question en ces termes, bah, ça permet de savoir, en fait, souvent.
Parfois, on ne sait pas si on va regretter ou pas au moment de se lancer. Dans si une vous... relation, par exemple.
Si, vous pouvez vous dire, à l'instant T, vous pouvez sentir déjà. Si vous posez la question vraiment en toute franchise,
okay.
Est-ce que ça, je vais pouvoir le regretter ?
Oui, c'est l'intuition aussi un peu.
Juste de vous interroger comme ça. Et ça peut être dans l'autre sens, hein. C'est de ne pas aller vivre un an dans cette ville. Est-ce que ça, je vais potentiellement le regretter ? C'est une façon aussi d'interroger son cœur. Parce qu'on sent souvent mieux le regret potentiel que est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire ?
C'est être honnête avec soi-même aussi.
C'est être honnête avec soi-même, ouais. Et le moteur de voilà, ce que pourquoi on fait les choses.
Merci beaucoup Stéphanie pour tous ces partages.
Mais merci à toi Victoria.
Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Si ce moment t'a plu, je t'invite à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes ou Spotify, ou à faire une story sur Instagram pour que je puisse te repartager. En attendant de se retrouver lundi prochain, tu peux me suivre au quotidien et m'écrire sur la page Instagram Nouvel Œil. Sur le site internet www.nouveloeil-podcast.com, tu pourras aussi t'abonner à ma newsletter. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. Je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et en attendant, savoure la vie comme il se doit et fais des choses folles.